Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, OKP Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. OKP Service, nous sommes à votre service.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième tranche du magazine de la vie au quotidien OKP Service. Nous savons que les enfants, les élèves sont déjà en vacances. Alors comment bien les occuper pendant cette période? Eh bien, on va parler de cela dans cette deuxième partie de l'émission OKP Service. Il est important de trouver des activités culturelles, ludiques, ce qui va occuper les enfants pendant cette période pour qu'ils s'ennuient pas. Bien, on va aborder cette question avec nos invités. Nous avons Michel Otto, il est expert de la petite enfance. Michel Otto, bonjour.
Bonjour Monsieur Jeudi, bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde qui nous suit de partout à travers le monde.
Bienvenue dans cette émission. Bien, les enfants, après les études, je sais que cette année scolaire a été beaucoup perturbée avec la Covid, mais les enfants sont arrivés à la fin, ils ont fini les examens. Maintenant, c'est la période des vacances. Alors, comment bien les occuper pendant cette période, Michel Otto?
En tout cas, merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Il faut commencer par dire que les enfants que l'on occupe, on ne les occupe pas pour occuper, mais une occupation qui soit bénéfique pour ces derniers. Alors, tout ce qu'il y a comme jeu ou comme divertissement prévu doit être en ligne droite avec la formation de l'enfant. Voilà pourquoi il est très important que tout ce qu'on aura comme activité organisée, notamment la lecture, notamment les jeux en plein air, notamment les visites guidées, des voyages, doivent ne pas être loin de ce que l'on vise que l'enfant soit, c'est-à-dire le futur, le prochain adulte de demain. Cela étant, je pourrais peut-être, si vous permettrez avec le temps, essayer d'énumérer quelques activités que l'on pourrait organiser au niveau de la maison, au niveau de structures qui reçoivent les enfants pour des jeux pendant des vacances. Mmh.
Bien. Alors, l'occupation dépend de l'âge ou bien comment ça se fait généralement?
Non, mais l'occupation dépend de l'âge parce que l'occupation est fonction des intérêts des enfants. Et les intérêts dépendent d'un âge à un autre. Parce que les besoins que moi j'ai pour me divertir ne sont pas les mêmes intérêts qu'il y a, par exemple, un enfant de 3, 4, 5 ans. Un enfant de 12 ans a d'autres intérêts qu'un enfant de 2 ans, par exemple. Donc, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais ça dépend aussi, c'est aussi fonction, il faut le dire, de l'environnement dans lequel l'enfant évolue.
D'accord. Commençons avec les tout-petits. Comment, bien, ceux qui sont à la maternelle d'abord, comment bien les occuper pendant cette période?
Alors, les tout petits, je sais que très peu, beaucoup de parents vont nous dire, oui, c'est la télévision. Oui, très bien, mais c'est la télévision. Mais la télévision présente beaucoup de dangers. Et dangers parce que lorsqu'on regarde, l'enfant regarde la télé pendant longtemps, ça impacte sur ses yeux, et ainsi de suite. Et puis, tout ce qui est comme dessin animé ou comme programme ne sont pas toujours adaptés à notre culture. Du coup, il est très important que les enfants aient du temps en dehors de la télé. Ça veut dire avoir des jouets qu'on peut avoir fabriqués localement ou qu'on peut avoir achetés et laisser les enfants jouer. Je prends le cas de blocs cubes dont chaque famille est censée avoir ou qu'on peut dans les écoles. Un enfant de maternelle peut avoir un petit vélo. Le vélo permet à l'enfant de jouer, mais en jouant, il développe certaines compétences, notamment la motricité, notamment l'équilibre, notamment la précision et l'intelligence se développent là-dessus. Au préscolaire, s'ils sont nombreux, on peut avoir de ce qu'on appelle en lingala du tendi. En français, c'est des déchets, hein, des morceaux d'habits qu'on peut ramasser chez les couturiers. Et avec ces morceaux d'habits, l'enfant peut se fabriquer des poupées, peut se fabriquer des marionnettes à sa manière, bien sûr. et avancer. Et cela, l'enfant aura donc contraint de faire ce qu'on appelle en psychologie des jeux symboliques, qui permet de représenter n'importe quoi par n'importe quoi. Alors, les enfants de maternelle peuvent aussi jouer au ballon. Oui, les ballons, parce qu'à la maison, on peut trouver des ballons. Il est vrai que nos maisons seulement n'ont pas assez d'espace pour que les enfants puissent jouer, mais c'est possible. On peut jouer, on peut laisser les enfants jouer au jeu de couleurs. Oui, on peut acheter des couleurs, des gouaches, couleurs à eau, laisser aux enfants les expérimenter en les mélangeant. On trouve que, par exemple, vert plus bleu donne telle couleur. L'enfant les vit seul. Mais dans tout cela, il faudrait toujours faire attention aux dangers que peuvent présenter certains des matériels ou certains des jeux. Parce que si on ne fait pas attention, tout de suite, un accident peut vite arriver. Et voilà.
Bien. Donc, c'est de cette façon qu'on peut occuper le tout petit. Il n'y a pas que les dessins animés, il n'y a pas que la télévision. On va accueillir... Il y a un auditeur plutôt qui nous, un internaute qui nous a écrit, fidèle pour les CEO, depuis Arouan en Itouri. À mon sens, l'occupation des enfants pendant les vacances dépendrait de la culture d'une région à une autre. Ici à Arou, par exemple, les vacances sont synonymes des travaux champêtres. Les enfants vont épauler les parents durant cette période et ils vont regagner après l'école, selon les dates qui la période est indiquée. Et par ailleurs, ces derniers n'ont pas le temps de participer aux activités culturelles et ludiques. Est-ce qu'un tel encadrement des élèves pendant les vacances n'aura-t-il pas une répercussion sur l'avenir des élèves vulnérables? Et quelle directive peut-on donner aux parents en vue d'accoucher un bon encadrement équilibré et avantageux aux élèves pendant les vacances? C'est Fidel qui nous l'a dit depuis Arou. Michel Auton.
Oui, mais Fidel n'a pas tort. J'avais commencé par dire que les jeux, les occupations sont fonction à la fois de l'âge des enfants, mais aussi de la culture, c'est faut le dire. Si à Arou, c'est le champ qui est l'occupation, mais attention, à Arou, amener les enfants au champ ne serait pas une simple occupation. Amener les enfants au champ, ce serait, au fait, une façon de demander un service aux enfants. Alors maintenant, il faut se poser la question. Est-ce que les enfants qui vont au champ, est-ce qu'ils se retrouvent par rapport à leurs intérêts? Ou bien ils y vont parce que les parents les ont contraints? Vous voyez, les jeux ne doivent pas être une contrainte. Les jeux, c'est une activité que l'enfant se choisit de façon délibérée pour satisfaire un besoin qu'il a ressenti à un moment donné. C'est ça. Mais lorsqu'on dit, bon, chaque jour, l'enfant doit aller au champ avec les parents, je suis d'accord, parce que c'est la culture. Est-ce que ce serait la réponse aux besoins réels de l'enfant? Ah, ça, je ne sais pas. Ça peut être oui, ça peut être non. Mais pendant toutes les vacances, une semaine pleine, au champ, comme je ne vois pas moi. Et dans ce cas-là, aller au champ risque de devenir une corvée pour l'enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas son vouloir, mais il n'y a que ça comme possibilité. Alors que les parents qui vont au champ, à Arou, peuvent ramasser des fruits, peuvent ramasser des graines, peuvent ramasser différents matériels, ramener à la maison, mettre à la disposition des enfants, et ces derniers pourraient les utiliser pour jouer à plusieurs activités. Parce que dans ce cas-là, l'enfant pourrait... avec ce matériel, faire beaucoup d'activités. Parce qu'avec ces jeux-là, avec tous ces matériels, attention, qu'est-ce que ça rapporte comme effet dans l'enfant? Les fruits, les graines, les arbres, des morceaux de trucs que les parents ramènent à la maison, permettront à l'enfant de regarder, d'écouter, d'imaginer, de toucher, de manipuler, de mesurer, de comparer, de trier, de former des tas. Bref, c'est beaucoup d'activités à la fois que l'enfant peut faire seulement avec des choses qu'on n'aurait pas achetées, qu'on aurait ramassées au champ, qu'on aurait ramassées dans le quartier, parce que même nos boîtes de conserve en ville ici, même nos cartons que nous jetons des médicaments, des ampoules, tout ce que vous voulez là, non, on pense les jeter, mais ça devient toute une boutique pour l'enfant. ça devient toute une pharmacie pour l'enfant. Et les enfants se mettent à jouer au vendeur, à l'acheteur. Ça fait réfléchir et ça fait vraiment travailler l'enfant. Il y joue, mais il joue en apprenant. Et c'est ça les jeux pour l'enfant.
Mmh. On va accueillir Kachai de Kanyuka. Bonjour Kachai.
Bonjour monsieur, je dis Daniel Kachama et bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation par rapport à l'occupation des enfants pendant les vacances?
Oui, merci beaucoup monsieur Jody. Vraiment, ce temps ici est un temps très difficile, surtout pour les parents qui ne s'étaient pas habitués avec les enfants à rester avec eux à la maison pendant très longtemps. Maintenant qu'ils se réveillent le matin, ils sont avec les enfants jusqu'au soir. Vraiment, ça devient un problème. Le problème, pourquoi? Parce que la gestion de ces enfants-là a de certaines conséquences. Récemment, ici, il y a certains enfants qui ont été tamponnés. Pourquoi? Parce que leurs parents n'étaient pas à la maison. Ils jouaient le long de la route et un motard les a percutés. Maintenant, moi, je voulais demander à l'invité, parce que ici, il y a certains enfants qui veulent accompagner leurs parents, non seulement au marché pour les vendeuses, mais aussi au service pour les travailleurs. Ils ne veulent pas rester le plus longtemps possible à la maison avec leurs parents. Et quand parfois ils sont à la maison, ils sont trop exigeants. Et ils cherchent à faire engager des dépenses pour leurs parents, des dépenses excessives qui dépassent les trains de vie de ménage. Alors, dans ce sens-là, je voulais demander alors à l'invité. Bon, pour les enfants qui... Bon, pour les ménages, parce que ce qu'il dit là, c'est par rapport à certains ménages qui ont quand même un train de vie du ménage acceptable. Maintenant, pour nous, parfois, qui sommes ici au village, nos enfants, le matin, qui n'étaient pas habitués à prendre du thé, mais quand il dit qu'il faut acheter de tel ou tel autre jeu à l'enfant pour jouer et qu'on n'a pas l'argent, si l'enfant fait une telle demande, on va faire comment? Et comment même le conscientiser pour qu'il comprenne que pendant ces temps, il doit non seulement accepter de rester à la maison quand les parents ne sont pas là, mais pas les suivre, ou soit il peut rester sous l'encadrement de ses frères et sœurs ou chez les voisins. Alors je ne sais pas comment il peut aider nous les villageois et aussi même les autres à savoir comment surtout prendre soin de ces enfants-là. Lorsque les parents, à ce moment-là, les uns vont au service, les autres vont au marché pour trouver quelque chose à manger, les autres encore, je peux exagérer comme ça, au village, on va au champ. Est-ce que les enfants les moins âgés peuvent accompagner leurs parents au champ pour faire quoi? Je ne sais pas. Ou soit au service, ça ne sera pas un dérangement. Ou au marché, vous savez, toute l'ambiance qui est au marché. Est-ce que les parents pourront toujours avoir du contrôle sur ces enfants-là quand ils sont avec eux au marché? C'est tout ce que je voulais demander à l'invité pour qu'il puisse préciser. Et aussi les vols. Et je voulais encore parler de ça. Les vols d'enfants, monsieur Jody. On a arrêté une maman récemment, d'ailleurs ici au Kanyuka, qui a mis deux enfants dans le sac. Dans un sac.
Des enfants de quel âge?
Les enfants de 5 à 7 enfants. 5-7 enfants.
Donc, les enfants de 5 à 7 ans, vous voulez dire?
De 5 à 7 enfants. De tout petits, là. Parce que d'ailleurs, j'ai compris que les enfants avaient d'abord un problème d'accroissement, de croissance. Vous voyez un enfant là de 5 ans qui n'a pas une bonne taille. Moi, je me dis bon.
Et facilement, la maman les a mis dans les sacs. Hein.
Essentiellement, la maman les a mis dans les sacs.
D'accord, alors, merci.
Avec des cris de la population, on l'a arrêté, on a ouvert les sacs, on pensait que c'est la marchandise qui devrait être là, mais plutôt les enfants.
Elle venait de voler les enfants, merci. Michel Otto, qu'est-ce que vous pouvez dire à Kachai par rapport à sa préoccupation?
D'abord, je vais commencer d'abord, commençons par le kidnapping qui devient de plus en plus surface à travers le pays. Le kidnapping nous oblige à nous tous, parents, communautés, voisins, à avoir des gros yeux sur nos enfants. Les enfants sont tout ce que nous avons de précieux. Donc, il faut bien les sécuriser et les protéger. Alors maintenant, notre ami de Kanyuka, moi j'ai beaucoup aimé son intervention. et j'ai envie de rire. Et moi, j'aime beaucoup les vacances. Hein. J'adore les vacances parce que c'est pendant les vacances qu'il faut voir, reconnaître la valeur de l'enseignant et la valeur de l'école. Vous voyez, les parents, lorsque l'enfant va à l'école, si on demande certains frais, certaines activités auxquelles il faut contribuer, les parents n'aiment pas trop. Et quand les vacances arrivent, les parents, je suis parent moi-même aussi, hein, nous ne sommes pas toujours trop prêts à rester avec nos enfants parce que nous pensons qu'ils nous dérangent. Ah oui, l'enfant dérange. Mais il dérange pas en réalité, il ne fait que sa vie. Est-ce qu'il faut amener l'enfant au travail? La réponse est non. Parce qu'au travail, moi je viens pour bosser, pour réfléchir. Mais l'enfant qui vient, il vient pas encore au travail. Oui, s'il peut venir une seule fois voir comment je travaille, les conseils de mon travail, comment est mon bureau, d'accord, une fois, d'accord, mais l'amener, parce qu'il est en vacances, il n'y a personne avec qui doit rester, l'amener au travail, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Par contre, j'encouragerai le parent parce qu'il a évoqué, il a voulu faire un distinguo entre les enfants des milieux ruraux et ceux des milieux urbains. Non, qu'on soit en milieu urbain ou en milieu rural, l'enfant reste enfant. Il reste enfant, il a besoin de jouer. Et jouer, c'est les jeux sont, il faut dire, culturels. Hein, parce que les jeux que l'enfant voudrait faire à Kinshasa ne seront pas forcément les jeux que l'enfant voudrait faire à Kanyoka, par exemple. Parce que il y a des jeux qu'il peut avoir vus à la télévision, et il a la possibilité d'aller dans des milieux où les jeux sont, les activités ludiques sont organisées et dans des conditions bonnes et acceptables, parce qu'on en trouve, alors qu'ailleurs il peut, bien qu'il peut avoir suivi à la télévision, il veut jouer au manège par exemple, il veut jouer à l'arc par exemple, mais les conditions environnementales ne le permettent pas d'avoir ce matériel là. Mmh. Alors notre ami a aussi évoqué un aspect selon lequel l'enfant peut demander aux parents une chose que les parents n'ont pas. Alors, il faut savoir qu'à l'enfant, il ne faut jamais mentir. Il faut toujours dire la vérité à l'enfant. Cette vérité, c'est quoi? Je n'ai rien. Mais c'est peut-être la manière de le dire qui diffère selon qu'on s'adresse à un enfant ou à un adulte. Vous voyez, il n'y a que ça. Donc, pour la petite enfance, c'est comme ça qu'on peut les occuper. Mais l'enfant qui veut aller accompagner son parent au marché pour vendre. Il y a une différence entre l'enfant qui demande d'aller accompagner et le parent qui veut amener son enfant parce que l'enfant n'a personne avec qui rester. Ce sont deux choses différentes. Lorsque l'enfant demande, il va aller certes, mais arrivé sur place, tout au début, l'enfant sera souriant, l'enfant sera content, mais l'enfant ne verra pas une heure si la maman n'est là qui est assise en train de vendre, ne s'occupant pas de son enfant, ne s'occupant que des clients qui viennent, et surtout si ce marché n'a même pas des opportunités de jeu pour l'enfant, même individuellement. Ça va poser pour l'enfant. Avant une heure, l'enfant va déclarer « Maman, je vais rentrer. Maman, je suis fatigué. Rentrons à la maison. » Vous voyez? Et dans ce cas-là, si l'enfant présente cette attitude, ça va gêner le parent. Parce que le parent est venu vendre, faire son travail. Mais l'enfant ne se retrouvant pas dans son travail, parce que les jeux, c'est vrai pour l'enfant aussi, d'après Pauline Kelgomar, il va déclarer « Je vais rentrer à la maison. » Et ça va ainsi indisposer le parent.
Voilà un l'enfant va s'ennuyer, ça c'est sûr. On va accueillir Isaac Tchoni depuis Kolwezi, dans la province du Lualaba. Isaac, bonjour. Bonjour Isaac.
Bonjour la radio Kati, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati à travers la RDC.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette thématique?
Ah, merci beaucoup. La thématique est vraiment pertinente, vu que nous sommes déjà dans la période de vacances. Des vacances ici permettront d'un processus de prolongement d'éducation. Et c'est aussi un moment favorable pour accompagner les enfants en ce qui concerne la valorisation de la culture, congolaise, qui est notre patrimoine commun, c'est-à-dire initier les jeunes enfants pendant ces vacances ici à des genres de sortes comme des colonies de vacances, encadrer les enfants, les orienter dans des bibliothèques publiques pour que les enfants apprennent quand même à lire certaines œuvres congolaises et surtout découvrir quelques écrivains congolais. Et c'est aussi un moment qui permettra aux enfants d'accéder à certaines pratiques comme concilier la théorie apprise à l'école à la pratique, c'est-à-dire la Bible sera là pour l'accompagner et afin que l'enfant puisse apprendre quelque chose sur le plan pratique. C'est aussi un moment favorable que le gouvernement congolais pourra aider ces jeunes-là pour ouvrir le milieu public, bien sûr avec le cas de COVID-19 ici, avec des mesures barrières bien sûr, pour les accompagner à apprendre aussi cette réalité.
Bien, merci Tchoni, depuis Isaac Tchoni, depuis Kolwezi. Otto Michel, votre réaction?
Oui, merci à Isaac depuis Kolwezi et à tout le monde de Kolwezi que je salue en passant et tous les grands Katanga en général aussi. Bon, je suis d'accord avec ce que notre ami a dit, mais je voudrais m'appesantir sur une réalité, la bibliothèque. Oui, on voudrait que les enfants se rendent à la bibliothèque. En fait, nous devons savoir qu'est-ce que l'on veut. On ne peut pas demander aux enfants d'afficher un comportement pour lequel ils ne sont pas capables de faire. On ne peut pas demander aux enfants de lire pendant que les enfants ne sont pas dans un environnement lettré. Aujourd'hui, si on demande une bibliothèque, que les enfants se rendent à la bibliothèque, je suis bien d'accord, mais dans le contexte des villes, on trouve des bibliothèques. Si on peut en trouver une bibliothèque, d'accord, ça peut occuper les enfants. Si on peut en trouver, combien de ces bibliothèques ont des rayons réservés aux jeunes enfants? Ah, c'est aussi un problème. S'il y en a, est-ce que les enfants ont accès? Je pense que je dis en commençant l'émission, tu as bien voulu que nous puissions commencer par l'occupation des plus jeunes, les enfants des maternelles.
Oui, les tout petits.
Tu ne vois pas? Oh, oui. En tout cas, à ma connaissance, je ne sais pas trop, mais je ne vois pas une bibliothèque, même le cas de Kinshasa ici, où nous avons des rayons uniquement pour la petite enfance. Je ne vois pas, je lutte un peu fort, quoi. Mais on peut en trouver assez rarement, c'est vrai. Et puis, le nombre n'est pas assez consistant. Notre ami Isaac a évoqué les aspects liés aux mesures barrières, Covid, d'accord, c'est une réalité, ça, il faut pas s'en passer. Mmh. Mais les mesures barrières qu'on demande à nous, grandes personnes, ne sont pas les mêmes mesures qu'on demande aux tout jeunes. Hein. Dans les enfants de 3 ans, de 4 ans, on va pas quand même leur demander de porter le masque. Non, parce que lorsqu'on demande à un enfant de 4 ans de porter le masque, c'est bien, il va le porter au début, mais après, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va vouloir, par sa nature curieuse, il va vouloir regarder ce que l'autre a porté. Il va prendre le masque de son ami qui est peut-être rose ou bleu. Il va, bon, je vais essayer ton masque et les conséquences peuvent être assez fâcheuses. Donc, apprenons nos enfants de se laver les mains et tout cela, éténuer ensuite du coude comme recommandé par les autorités sanitaires. Mais n'allons pas jusque trop loin. Ici, il faut revenir au fait que nous sommes en train de discuter sur comment occuper les enfants pendant les grandes vacances.
Otto Michel, voilà, on va accueillir Maître Gilbert Massoudi de Kindu. Bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Jody Kachama. Bonjour à l'invité.
On vous écoute, Maître Gilbert.
Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. La première des choses, je tiens d'abord à saluer ce débat. Et à mon avis, pour ce débat, je disais que pour protéger bien l'enfant pendant cette période de vacances, la première des choses, il fallait que les parents doivent mettre la discipline à travers leurs enfants. Pourquoi je disais ça? Parce que pendant la période de vacances, il y a certains enfants qui affichent toujours des mauvais comportements. Il a amené toujours des problèmes au niveau de la maison. Alors, il est censé, les parents, les mettre d'abord la discipline à travers leurs enfants. La deuxième des choses, il a fallu que les parents s'inscrivent. Il a eu l'obligation et le devoir d'assurer la protection et le devoir de protéger leurs enfants sur toutes circonstances. Et si vous allez voir l'article 41 et 43 de la Constitution qui dit ça, la protection et le devoir de l'enfant. La troisième des choses, je disais qu'il fallait que les parents initient certaines activités à travers leurs enfants pour produire de l'argent, au lieu de laisser de l'enfant de circuler parti par là. Les enfants, pendant la période des vacances, s'ils font analyser et regarder, beaucoup de filles prennent la grossesse. Et les garçons amènent toujours les problèmes au niveau de leurs enfants. C'est pourquoi...
Au niveau de leur famille.
Oui, c'est pourquoi je disais que les parents doivent veiller beaucoup la discipline et interdire l'enfant de circuler parce que nous sommes dans un moment très difficile.
Bien, là vous parlez beaucoup plus des jeunes, les adolescents et les jeunes.
C'est pourquoi je vais aussi poser la question à l'invité à la fin. Oui, je disais que les parents doivent surveiller beaucoup l'enfant de ne pas circuler. Parce que les maladies s'entournent en République démocratique du Congo. L'enfant peut attraper les maladies à l'extérieur et venir avec ça à la maison. Il peut contaminer avec les autres. Alors, je termine en disant, en posant la question à l'invité. Quelle catégorie de l'enfant à protéger pendant la période de vacances ? Merci.
Bien, merci. Michel Otto, vous avez la parole.
En tout cas, Maître Gilbert de Kino a été assez très long, mais merci pour cette intervention. Il suit en disant quelle catégorie d'enfants nous devons protéger. Mais non, écoutez, tout enfant, qu'il soit vulnérable ou pas, a droit à notre protection. Nous en tant que parents et nous en tant que communauté. Et Maître Gilbert dit aussi que les parents doivent surveiller les enfants à ne pas circuler.
Surtout, il parlait surtout des adolescents et des jeunes.
Ah, ok, heureusement pour moi, parce que là peut-être, sinon j'ai tout de suite pensé au feu Madilou qui disait « Dis aux rêveurs de ne plus rêver et dis aux enfants de ne plus jouer ». Et puis, c'est pas possible de demander à l'enfant de ne pas jouer. Même alors. Alors, ici, je voudrais qu'on revienne sur le sujet de départ, c'est-à-dire l'occupation des enfants pendant les grandes vacances. Alors, il faut déjà se dire que quand on dit vacances, l'école est presque inexistante, pour ne pas dire inexistante, parce qu'elle est censée être fermée, sauf dans la mesure où certaines écoles pourraient prolonger les activités sous forme de parascolaires. Alors, les écoles étant fermées, il n'y a donc pas d'enseignants. D'où la surveillance, la tâche de surveillance des enfants nous incombe. Nous, en tant que parents, nous, en tant que communauté, et nous, en tant que autres structures d'encadrement des jeunes enfants dans notre milieu. En tant que parents, il faut dire que nous n'avons pas assez de temps en tant que parents, ça il faut dire, hein. Même jeudi, voilà, depuis le matin, tu es déjà à la radio ici avec ton boulot. Mais les enfants sont restés avec qui? Et si madame travaille, sont restés avec qui ces enfants-là? Vous voyez? Donc du coup, ressort avec des nounous qui ne sont pas toujours formés à encadrer les enfants. Alors c'est comme ça que certaines écoles, ayant compris ses besoins, organisent des activités parascolaires pendant ces grandes vacances, des colonies de vacances. Des familles qui ont assez peut-être de moyens organisent des voyages avec les enfants pour aller peut-être aller se distraire ailleurs. Ici, je voudrais rappeler que occuper les enfants pendant les vacances, c'est notre rôle en tant que parents, c'est notre rôle en tant que communauté Et les églises et les mosquées qui sont disséminées à travers le pays ont aussi une part des responsabilités dans ce sens qu'ils peuvent ou qu'elles peuvent organiser certaines activités parascolaires, culturelles, qui permettent aux enfants d'apprendre, de jouer, de s'amuser, de se défouler, bref, d'être occupés sainement alors, en regardant tout droit les intérêts pour lesquels l'enfant est appelé à répondre demain, bien sûr. Donc ici, je voudrais dire que c'est une tâche pas facile, mais le parent peut, avec le peu de temps qu'il a, jouer un peu avec ses enfants, avec le peu de temps qu'il a, fabriquer des jouets avec ses enfants, avec le peu de temps qu'il a, regarder la télé avec les enfants, avec le peu de temps qu'il a, arranger la chambre avec les enfants, avec le peu de temps qu'il a, faire le ménage avec les enfants, arranger la maison avec ses enfants, parce qu'il faut dire qu'à cet âge de la maternelle, par exemple, l'enfant apprend entre autres par imitation, entre autres. Et l'imitation, ce serait naturellement de bons exemples que nous devons donner à nos enfants. Est-ce que les faisons-nous? Dieu seul sait.
Bien. On va accueillir un autre auditeur, Jonas de Kananga. Bonjour.
Bonjour, joli Daniel. Bonjour à tous les auditeurs et à l'invité.
Bienvenue, Jonas. À propos des vacances, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, merci. C'est un sujet intéressant. Nous avons vécu la situation de la pandémie à COVID-19. Il y avait arrêt des activités. On a vu comment les choses se passaient dans les familles. Il n'y avait pas d'encadrement et c'était vraiment décevant. Alors maintenant, ce sont les vacances qui commencent. Les parents doivent vraiment ouvrir les... Nous avons constaté ici au Kassai Central, c'est une province où d'abord il n'y a pas beaucoup d'activités ludiques, comme à Kinshasa, où les activités sont diversifiées. Et comme le disait mon frère de Kanyuka, on est tous dans la même province, et les parents ont un laissé-aller. Il y en a qui n'aiment pas rester avec les enfants tant qu'ils sont à la maison. Il y en a qui vont bien sûr au travail, mais il y en a qui sont à la maison, peut-être qui se débrouillent non loin de leur résidence, mais ils ont du mal à supporter la présence des enfants à leur côté. Les filles, beaucoup de filles ici pendant l'arrêt des activités dû à la pandémie, beaucoup de filles étaient tombées enceintes. Enceintes parce que les parents n'avaient pas de suivi sur leurs enfants. La fille peut mentir. Je vais aller telle part. Elle ne va pas là où elle a dit. Elle va ailleurs. C'est comme ça qu'on a dénombré beaucoup de grossesses. Alors, comme l'invité le disait, c'est pas tout le monde qui aime le livre. Alors qu'il y a des activités, par exemple, dans certaines écoles, il y a des enseignants qui ont organisé des formations pour encadrer les élèves pendant ces vacances. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Si les parents peuvent adhérer dans ces...
Les colonies, vous voulez parler des colonies de vacances?
Il y a des colonies de vacances, oui. Il y a des écoles où, pendant ces vacances, notamment la plupart des professeurs d'anglais ont organisé des formations pendant ce temps de vacances. Si les parents peuvent envoyer les enfants suivre la formation, c'est mieux. Dans ce cas-là, vous verrez qu'il y a un temps où ils sont occupés par l'enseignant et puis ils rentrent à la maison. Alors, en plus, il y a des enfants qui aiment bien les jeux de football. Mais là aussi, ça se pose un problème. Ce n'est pas bien encadré. Il y a des tout-petits qui jouent sur les avenues et ainsi de suite. Ce qu'on peut leur demander, c'est d'ouvrir l'œil et protéger les enfants à la maison. Nous sommes dans une province où la pauvreté bat record. Il y en a effectivement, comme le disait l'invité, qui n'a pas. Il y a des parents qui n'aiment pas parce que l'enfant est exigeant. Mais vous allez le renvoyer. Il va aller où? Il est votre enfant. Il faut rester seulement avec lui à la maison, le protéger. Et maintenant, la question que je voulais poser à l'invité, c'est celle-ci. Voyez, ils viennent de quitter l'école. Mais est-ce que c'est encore bon pour qu'ils soient surchargés avec des matières, comme je le disais, qu'il y a des formations qui sont organisées? Est-ce que c'est bon pour qu'ils soient encore surchargés avec des formations pendant ces temps de vacances? Ou mieux, c'est une bonne chose si cela est agréable à tout le monde.
Bien, merci. On va donner la parole à Kisimba de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité. Comment vous allez?
Bien Charles, on vous écoute.
En tout cas, l'idée est vraiment à saluer, d'une part, mais de l'autre part, ce n'est pas du tout à saluer, parce que il y a risque d'assister à une éducation difficile. Pour l'enfant en grandissant, doit grandir avec le comportement de ses propres parents. Mais si l'enfant sera, par exemple, au village, là, c'est déjà l'éducation diffuse. Et puis, je dis, ici à Lubumbashi, les parents ont commencé un peu à dégoûter d'envoyer leurs enfants au village parce que il y a les problèmes touchant les places spirituelles. Les enfants, à leur retour, on leur prophétise d'avoir attrapé la sorcellerie là qu'ils étaient partis. Et ce sont des faits réels. Nous assistons aux enfants qui vomissent des serpents, qui vomissent des trucs comme des avions, et ils disent que c'est le moment là où ils étaient partis. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que l'invité pourra prodiguer comme conseil à tous les parents qui m'écoutent ici à Lubumbashi. Voilà pourquoi certains parmi eux préfèrent maintenant d'envoyer les enfants, par exemple, à Kipushi, à Likasi, à Kasumbalesa, à Kolwezi, mais ils ne choisissent pas les milieux, les coins et les coins de la République démocratique du Congo. Voilà un peu ce que je voulais dire.
Merci Kissimba. Les parents ne veulent pas envoyer les enfants au village, sinon ils vont attraper la sorcellerie. Bien, Michel Otto, vous avez la parole.
Alors, je salue les Louchois, je dis salamou, et Betouabou. Alors, je vais commencer par notre ami de Lubumbashi, qui dit que les parents ne veulent plus envoyer les enfants au village. Bon, qu'on le veuille ou pas, le village restera chez nous, hein. Comme disait un musicien, je crois que c'est Fabregas, maestro, il dit, ses parents qui m'a encadré pendant 9 mois dans son ventre, il m'a pas bouffé, pas sa sorcellerie, et quand je grandis, il va me bouffer. Non, je pense que c'est la pauvreté qui est à la base, hein, et l'ignorance. Apprenons juste en fait, la Bible, parce qu'apparemment il est un peu chrétien, dit l'ignorance tue, mon peuple périt par manque de connaissances. Apprenons à connaître ce qu'ils doivent faire, et les parents et la communauté pour leurs enfants, vous verrez que toutes ces histoires-là vont disparaître. Donc je pense que l'ignorance joue un rôle assez important dans cela. Alors je reviens à notre ami Jonas de Kananga qui dit, mais est-ce que ce n'est pas dangereux des enfants qui aient passé beaucoup de temps aux études, plus de 9 mois pour notre l'année spéciale ici, et le mettre encore à des formations? Bon, écoutez, lorsque l'enfant va à l'école, il n'y va pas par son vouloir. L'enfant va à l'école parce qu'il est contraint par nous les parents, il est contraint par la communauté. L'école n'a jamais été, de par sa création, un milieu où l'enfant peut aller de son propre gré. Non. Voilà pourquoi à l'école, on implante certains matériels de jeu, on met des conditions pour que l'enfant apprenne à aimer l'école. Alors, puisqu'à l'école, l'enfant a appris pendant toute l'année scolaire, oui, on dit, les psychologues ont pensé, les législateurs ont pensé à trouver une période de vacances. Les vacances ne signifient pas croiser les bras. Les vacances ne signifient pas dormir du matin au soir. Les vacances, c'est juste un changement d'activité. Un changement d'activité ou même la façon de mener ces activités-là. Vous voyez, lorsque l'enfant allait à l'école chaque jour, du matin à midi par exemple, ou de midi au soir, il apprenait d'une certaine manière. Maintenant, lorsqu'il se trouve dans un camp qu'on appelle colonie de vacances, on devra normalement changer de stratégie. Ça ne devrait plus être des classes classiques où les enfants sont là, à bras croisés, jambes croisées, regarder le tableau, recopier, remettre le papier, interrogation. Non, on devait plutôt apprendre autrement, apprendre différemment, de sorte que l'enfant se sente par lui-même intéressé à aller suivre ces activités-là. Donc, si la procédure pouvait changer, les choses se feraient, se présenteraient aussi différemment qu'avant. Donc, du coup, je reviens pour dire que c'est bien d'organiser des activités parascolaires, c'est bien les colonies de vacances, mais c'est mieux que ces encadreurs soient formés à un enseignement ludique qui est différent de l'enseignement classique. Il faudrait que ces encadreurs et de la connaissance sur comment l'enfant évolue, comment l'enfant fonctionne, quels sont les intérêts et les besoins de l'enfant, de sorte que leur encadrement soit réellement des réponses aux besoins réellement vécus par les enfants. Qu'est-ce que je peux dire, Monsieur Jody Kachama?
Bien, maintenant parlons des adolescents et les grands enfants. On a appris tout à l'heure que pendant cette période, il y a un risque que les filles attrapent la grossesse, les garçons vont s'adonner à des activités pas bien. Alors, beaucoup d'ailleurs s'adonnent aux jeux vidéo. Ils sont tout le temps connectés sur ces jeux vidéo du matin au soir. Alors, il n'y a pas assez d'espace ludique pour des jeux, les espaces des jeux pour les enfants. Alors, dans ces contextes, Otto Michel, comment bien en accorder un bon encadrement aux enfants?
Ah, l'adolescence. Une période pas facile, faut le dire. Une période qui, en tant que parents, enseignants, responsables de la communauté, si on force trop, on casse. Si on lâche trop, on perd. En fait, l'adolescence, c'est comme un œuf qu'on tient entre ses mains. Ou c'est un petit oiseau, un oisillon qu'on a entre ses mains. Si on le tient fort, on le coince fort, il meurt. Si on le lâche, il s'en va, il s'envole, on le perd. D'où, il faut d'abord connaître c'est qui est un adolescent. Ça, c'est le point de départ. Il faut savoir quels sont les besoins spécifiques et réels d'un adolescent. Il faut savoir comment se comporte un adolescent. Et maintenant, lorsqu'on connaît cela qui constitue pour nous pratiquement des bases par rapport à l'encadrement, et on va adapter son intervention pédagogique, son encadrement par rapport à tout cela. Vous voyez? Par exemple, vous trouvez un adolescent de 16 ans qui est un garçon qui est déjà amoureux, qui commence déjà avec tout cela. Devant sa petite amie, tu le grondes devant sa petite amie. Ah, c'est bien en tant que parent, c'est bien en tant que grande personne, c'est très bien d'avoir fait cela. Mais est-ce que lui, l'adolescent, il supporte cela? Il peut vous répondre méchamment devant sa copine, non pas parce qu'il est mal éduqué, non pas parce qu'il est impoli, mais sa nature l'a poussé à faire cela. Alors, nous, en tant qu'adultes, si nous connaissions comment l'adolescent pouvait se comporter en telle circonstance, notre action aurait été différente de celle-là. Alors, je me résume en disant que l'adolescence, qui est une étape pas facile à gérer, exige beaucoup de tact. Alors là, il faudrait donc lancer un appel à nos communes, à nos quartiers, aux ONG qui gèrent les villages, les villes, les communes, tout cela, de pouvoir organiser des activités intéressantes. Ici, je voudrais prendre un cas, si tu permets, je dis, de l'Église catholique. L'Église catholique qui a beaucoup d'activités culturelles, parascolaires, le quesito annualité. Ce qu'ils font, il faut le dire, constitue à une bonne formation d'adolescents. Il faut le dire, constitue une bonne activité d'occupation pour les jeunes. Sauf, il faut peut-être déplorer dans certains cas, le fait que certains de leurs encadreurs ne sont pas toujours formés pour encadrer cette jeunesse qui se trouve à une étape pas facile de leur vie. Ça, il faut le souligner. Donc, l'adolescence, il est très important de connaître ce que c'est et les exigences que cet âge demande.
Bien, on va accueillir Malonga de Manondouville. Bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute. Notre invité. On vous écoute.
Ok. Merci, Jody. Bon, nous ne sommes pas des pédagogues de formation, mais nous sommes des pédagogues de plus que tout parent doit savoir les caprices des enfants. Bon, à cette période de vacances, j'ai dit, moi, je vais demander. L'enfant a beaucoup étudié. Vous savez comment est-ce que les enfants souffrent de cette année. La période de la sécheresse, en tout cas, les Blancs ont prévu de faire reposer, mais et ils ont étudié. Est-ce que nous pouvons encore encadrer les enfants comme ils étaient encadrés à l'état de l'école
louer un éducateur ou bien encadreur ou bien enseignant comme ça, chaque jour qu'ils enseignent, bon, c'est une période que l'enfant doit aussi s'éteindre, doit faire tout ce que les parents aussi font à la maison, à la brousse et tout ça. Est-ce que dans ce sens-là, l'invité peut m'expliquer là-bas? À part cela, les enfants vraiment ont besoin de la noblesse aussi. Mais les parents, c'est ce que nous déplorons beaucoup aujourd'hui dans notre pays. Les parents, vraiment, sont dépourvus de moyens pour répondre aux besoins des enfants. Parce que l'enfant ne songe pas que si son parent ou bien ses responsables peuvent manquer les moyens. Il demande tout ce qu'il voit et tout ce qu'il a besoin. Mais en face des parents, les parents se disent qu'il y a des faits vraiment graves pour concrétiser. Alors, tout ce que l'invité vient de dire là-bas, ça pousse à enrichir tous les parents pour répondre à tout ce que l'invité vient de dire. Qu'est-ce qu'on peut faire si moi je n'ai pas les moyens d'encadrer l'enfant? Et puis de lui aussi, les encadrer pour me servir en cadreur. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ici, d'abord, moi, j'ai 6 enfants. C'est 3 enfants qui sont vraiment 3 adolescents, mais les autres, ils sont vraiment... Bon, les 3, là, qu'est-ce que je peux faire pour parvenir à les encadrer jusqu'à la rentrée scolaire encore?
D'accord.
Moi, j'entends une efficace réponse.
Merci.
Je me fais ça.
Bien, Safari et Taïga Barrière, bonjour.
Oui, bonjour à vous, monsieur l'invité aussi.
On vous écoute, Safari.
Oui, ok. Je me souviens quand on était encore des petits enfants, juste pour notre protection, nos parents utilisaient une méthode que voici. Donc, on nous interdisait de sortir de la parcelle qui nous appartenait pour aller jouer, par exemple, chez les voisins. Quand vous sortez d'une distance de 4 mètres, par exemple, au risque d'être... Nous risquions d'être fouettés. Donc, je crois que c'était une bonne méthode. Oui, peut-être, mais j'aimerais savoir si l'invité peut m'expliquer concernant cette méthode. Est-ce que c'est la bonne ou bien c'est la mauvaise? Car avec ça, on parvenait à ne pas connaître peut-être les enfants, tout ça. Mais pour nos parents, je crois que c'était la bonne. Alors, monsieur l'invité peut beaucoup nous dire sur ça.
Bien, merci. Otto Michel.
Ok, merci. Oh, ça commence à chauffer là, je trouve. Hein.
Merci
beaucoup à tous ceux qui interviennent de gauche à droite. Je vais commencer par notre ami Malonga de Bandundouville. Est-ce qu'il faut occuper tous les enfants? Oui, nous avons l'obligation, nous en tant que parents, nous en tant que communauté, de nous occuper de tous les enfants, sauf aucun. Il a 3 enfants, disait-il. Lui, peut-être qu'il n'a pas assez de ressources intellectuelles. Comment faire pour s'en occuper? Ah oui, mais c'est simple.
Des ressources financières. Hein.
Oui, ressources financières, d'accord. Mais c'est pas compliqué. Occuper l'enfant pendant les vacances n'a pas toujours de rapport avec les ressources financières. Non. J'avais donné au départ une activité. Enfin, malheureusement, ces enfants sont déjà adolescents. Peut-être ils étaient jeunes. Et on pouvait ramasser des matériels pour eux et les permettre de jouer. Alors, ces adolescents, si tous 3 sont adolescents, il faudrait que les parents trouvent un mécanisme, qu'on peut appeler une coopération, entre les 3 enfants. Ça veut dire qu'ils peuvent trouver des jeux, hein, qui, chacun à son niveau, ils peuvent jouer ensemble. Le jeu des cartes, c'est un jeu intellectuel. Les jeux des dames, c'est important. Mais ils peuvent aussi faire ce qu'on appelle les jeux des pays, qui apportent beaucoup sur le plan culture général. Ces enfants peuvent jouer aux jeux intellectuels ou même aux jeux qui ne sont pas forcément intellectuels. Vous voyez, ces jeux peuvent être individuels, peuvent aussi être collectifs. Habituellement, avec ces 3 enfants-là, ils peuvent s'organiser de manière à rendre beaucoup plus attrayant ce qu'ils font à la maison. Évidemment, les parents sont aussi invités à chaque fois qu'ils ont l'opportunité de pouvoir s'y inviter et de pouvoir travailler ou jouer avec les enfants. Mais notre ami Safari, qui a une bonne expérience de fouet, que grâce au fouet, les enfants étaient bien éduqués. Très bien, notre ami Safari. Merci beaucoup. Je comprends que c'est grâce au fouet
que vous avez appris à voler. C'est grâce au fouet que vous avez appris à tricher. C'est grâce au fouet que vous avez appris à piller ce pays. Voilà. Vous voyez? Et ça, c'est le fouet. Parce que c'était de l'hypocrisie carrément. Aujourd'hui, le fouet, il est démontré que à la place du fouet, il faudrait plutôt discuter. Il faut parler. Il faut échanger. Je crois avoir fait une émission sur Okapi Service, je me rappelle encore une fois, que lorsque l'enfant commet un mal, même s'il faut le taper, ne jamais le taper sans lui avoir dit pourquoi vous le tapez. Ne jamais le punir sans avoir échangé avec lui. Et même lui suggérer que l'enfant vous dise pour le mal qu'il a commis, quelle punition il mérite. Vous voyez? Donc, un enfant, tu trouves un enfant qui a peut-être volé ou qui a menti, que tu le gifles. Tu ne dis pas pourquoi tu l'as giflé. Il comprendra pas pourquoi il a été giflé. Vous voyez? Donc, du coup, le fouet, hormis le fait qu'il est psychologiquement très dangereux, avec beaucoup de conséquences physiques sur le corps de l'enfant, tout cela, la discussion, la persuasion, la conviction constituent des moyens très efficaces. La coopération, le dialogue entre adultes et enfants, les échanges entre parents et enfants constituent des bonnes pistes à explorer, à exploiter pour un bon encadrement, pour une bonne éducation des enfants.
Bien, Michel Otto, merci. Je rappelle que vous êtes expert de la petite enfance. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de l'occupation des enfants pendant les vacances. Excellente journée.
Merci, je dis au revoir.
Moi, c'est les gens qui ont fait un peu de mal. Là, c'est la ville qui a habité le Tego. Bah, yo, coco, sanga, yo. Mais le Tego, qui n'a qu'un sens, ça. Coco, soit pas les valingas. Là, il n'a qu'un sac de palais, one away. Là, le coco, le palais, y'a pour Brenella. Moi, t'es mananga, il fait le moto. La Tego, pas de bananga, il y a un son. On a son bon way. Oya kufuta maswaya mayo, tangu na kumina ilipo, nazwi maswaya mayo, tangu na kumina ribumu ya chinsanso yo, na bandi kutelengana, nae na bandi kukufanzala, na bandi kulokota madesu na zando, yangu zando wana weyo, yoko medumbe pale ya kulala, kulale, kulale yo yo yo, pale yo kele kele. Nabutani na misa na angai moko, misa wana luli na angayo. Nileka po vivila na jensa soyo, ilu po vete rivanga. Ngai na kanisa kirivanga yango, izalo kule yangu shimayo. Woiba West Africa valinga kamingyo, kasi rivanga yango. Izalaki yangu kota nandaku ya vato, kotu iba viloko, tutu angomu baninga. Katingaina za balado te balado balado ana balado te balado balado te
un terme à cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis, fidèles auditeurs, à la prochaine.